c'est bientôt la fin de l'inattendu, mais avant de se quitter, retrouvons Valentin qui nous propose une interview en compagnie de Laure Catrin et Delphine Batour sur leur représentation Hall 21-22 dans le cadre du festival TNB.
Exactement, Laure Catrin et Delphine Batour viennent de nous rejoindre en studio. Bonjour et merci à vous deux d'être venus aujourd'hui avec nous dans l'émission.
Bonjour.
Bonjour.
Et on va donc parler ensemble de votre dernier spectacle intitulé Hall 21-22, dont vous avez fait la première en mars dernier au Tambour à Rennes 2. Je suis donc allé vous voir vendredi dernier au Théâtre du Cercle. Vous avez fait 3 dates durant ce festival TNB. Comment ça s'est passé pour vous ce festival ?
Pour moi, c'était... je pense qu'on était heureuses de venir jouer là. Enfin, moi, étant ancienne élève de l'école du TNB, forcément, du coup, venir y jouer, c'était vraiment chouette. Et après, c'est une autre période. C'est complètement un autre contexte que quand on l'a joué en mars et puis après, un peu plus tard, au printemps, à l'Université Rennes 2. C'était pas du tout le même public. Un public plus festivalier, un public peut-être plus adulte, mais en même temps mixé. Mais du coup, c'était pas forcément la même réception, mais c'était une belle réception quand même. Donc, c'était 3 belles dates.
Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Delphine ?
Non, pour nous, c'était une reprise de la saison, en tout cas. Donc, on a rejoué les spectacles quasiment 6 mois après. Et donc, forcément, ça résonne aussi, toujours d'actualité, en tout cas. C'est ça aussi qui est assez, assez fort, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais.
Et je voulais revenir avec vous directement sur le titre, parce que sur le catalogue TNB et même sur Internet, on peut voir donc Hall 21-22. Puis, il y a écrit « titre provisoire » entre parenthèses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est écrit comme ça ?
On en a beaucoup parlé ces derniers jours en plus.
Parce que j'ai l'esprit compliqué. Non. En fait, c'est parce que au départ, la création, elle s'est faite vraiment très très vite. Enfin, sur une échéance de temps très très courte. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on faisait le projet. J'ai proposé le projet à Delphine et à Raph en mai dernier. Et voilà. Et du coup, entre mai dernier et mars dernier, il y a eu tout, la résidence à Rennes 2, l'écriture, la composition musicale et puis les résidences. Donc effectivement, pour le titre, au départ, j'ai pris les premières choses qui venaient et puis j'ai laissé en titre provisoire, quoi, puisqu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait sortir du texte. Et finalement, le titre provisoire est resté. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui me paraît juste là-dedans, parce que ça parle de ça, justement. Ça parle du provisoire, enfin, de quelque chose qui ne devrait pas rester provisoire et qui le reste, en fait. Voilà.
Donc ce titre provisoire est permanent, au final.
Voilà, exactement.
et donc, vous dites vous avoir inspiré par le livre de Barbara Stiegler, de la démocratie en pandémie, et également par le poème Hall d'Allen Ginsberg. En quoi ces deux œuvres, elles vous ont poussé à vous lancer dans ce projet-là ? Pourquoi ça a été un déclic pour vous ?
J'ai découvert Barbara Stiegler et je suis retombée sur Hall d'Allen Ginsberg, que je connaissais déjà avant, pendant cette période de pandémie. Et en fait, les deux, ça a fait un espèce d'effet électrochoc pour deux raisons très différentes. Le poème de Ginsberg, parce que d'un coup... il y a un espèce de... Il dresse le portrait de la jeunesse universitaire de son époque. Enfin, d'une certaine jeunesse universitaire de son époque, mais c'est surtout un espèce d'appel au dehors, d'appel à la rencontre, d'appel à la sortie de route, d'appel à... Enfin, d'explosion face à un monde contraint qui rend fou, folle. Et c'est un espèce de road movie, de sensation, de dévorer la vie par toutes les sensations possibles. Et en fait, lire ce texte, il y a un tel déroulé d'images, de flots, que ça a fait un bien énorme, en fait. Juste lire ça, ce texte poétique, c'est comme si on avait remis le robinet à couler dans un endroit complètement desséché, en fait. Et ça a fait aussi un espèce d'effet de dissonance cognitive par rapport à ce qu'était en train de vivre la jeunesse universitaire en France à ce moment-là. La sortie de route, l'appel aux grands espaces, à la rencontre, au machin, non, quoi. Enfin, là, c'était complètement... Enfin, c'était violent, en fait, ce contraste. Et Barbara Stiegler, moi, c'est pareil, c'est une lecture qui m'a fait du bien, en fait. Parce qu'elle nomme, elle décortique, en fait, comment est-ce que le politique a géré la pandémie. Et calmement, je sais pas comment dire. En plus, c'est une œuvre d'intelligence collective. Elle a fait appel à, enfin voilà, elle s'est liée à des étudiants-étudiantes, à des spécialistes dans d'autres spécialités. Désolée, je parle très mal ce soir. Voilà, et pour décortiquer vraiment simplement, ok, enfin, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et ça, ça signifie ça, ça, ça signifie ça, etc. Et moi, ça m'a fait un bien fou, en fait, parce que le fait que ce soit nommé, décortiqué simplement, ça fait sortir de la sidération, alors que j'ai l'impression que, justement, cette période, ça a été sidération sur sidération. On a accepté un nombre de choses incroyables. Voilà, et c'est aller taper aussi sur mes propres colères à des endroits. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie de... Ok, enfin... En plus, j'étais en contact avec l'université Rennes 2 à ce moment-là, donc sensibilisée à ce qui se passait pour les étudiants et étudiantes et ce qui se passait dans les universités. Et du coup, j'étais là, bah non, bah, il faut en parler.
Il faut en parler. Ouais. Et du coup, donc, le projet s'est lancé et vient ensuite la confection de cette représentation. Donc, vous êtes parti, vous, Laure Catrin, aussi avec Delphine Batour, qui est, on le rappelle, comédienne et metteuse en scène de la représentation, et aussi Raphaël Mars, qui est donc le coordinateur musical. Si je ne dis pas de bêtises.
Compositeur, ouais. Compositeur et interprète, oui. Musical. Ouais.
Et donc, vous trois, vous êtes partis à la rencontre des étudiants. Vous avez repris, dont vous reprenez les paroles sur scène. Comment s'est passée cette résidence à Rennes 2 comment s'est passée cette rencontre avec tous les étudiants?
Juste pour préciser, je suis pas comédienne sur le projet. Enfin, je sais que sur la photo, on est à 4, donc ça peut laisser sous-entendre.
Oui, je disais oui, comédienne, parce que vous êtes comédienne aussi dans la vie, mais vous êtes metteuse en scène là sur cette représentation.
Ok.
C'est ça?
Oui, on va dire ça. mais bon, ouais, c'était juste un petit détail. Non, bah alors, pour en revenir vraiment à la période de première résidence qu'on a pu faire par la suite, après que Laure nous ait proposé de rejoindre le projet, après que Clermont aussi, bah, pour ma part, par exemple, je découvrais le texte de Hall d'Allen Ginsberg que je connaissais absolument pas. On a commencé déjà par une première étape au mois de juillet ensemble, avec Laure, donc, où on a déjà décrypté complètement le poème et puis aussi traversé d'autres poètes américains, anglais, pour un peu déjà se familiariser à la langue poétique. Donc déjà ce travail un petit peu de pour comprendre le rythme clairement du poème. Par la suite, donc on s'est retrouvé donc avec Raphaël, Laure et moi ici pendant une semaine vraiment avec pour objectif d'aller à la rencontre des étudiants et des étudiantes, donc par divers moyens, par les moyens qu'on avait choisis, à savoir que Raphaël, lui, sa spécialité sur le projet, c'est la musique. Donc ce qu'il voulait faire, c'était surtout à récupérer de la matière sonore, puisque le questionnement, c'était quels sont les bruits manquants sur un campus vide, quels sont aller capter le bruit du vivant, le bruit du bâtiment. Donc lui, toute la semaine, il a passé avec son zoom et son casque audio à aller comme ça capter des bruits de machine à café, les bruits de la cafétéria, les bruits des brouhaha aussi. Nous, avec Laure, toi, tu t'es plutôt concentré sur les associations, donc d'aller rencontrer les directeurs, directrices et étudiants, étudiantes, voilà, d'asso. Et moi, j'ai été aussi à la rencontre des étudiants et étudiantes sur le campus. Donc, et tous les soirs, on faisait un compte-rendu aussi, un petit peu des personnes qu'on avait rencontrées, de ce qui nous avait touché aussi profondément, c'est comme ça qu'on a évolué tout au fil de la semaine. Et puis à la fin, on a donné tout ce petit package, enfin pardon, il y a eu en parallèle deux ateliers quand même, un atelier de soundscaping avec Raphaël, et donc un atelier d'écriture avec Laure sur cette semaine. Et par la suite, donc on a remis toute cette matière à Laure, qui est partie sur deux semaines d'écriture, et qui nous a donc envoyé le texte dans la boîte mail le 25 décembre au matin.
Voilà. Surtout, j'avais envie de me décharger histoire d'avoir un peu de vacances.
Je pensais qu'il était 7h du matin.
Ouais.
Et ensuite, comment a été pensée la mise en scène, je pense notamment, mais pas que, mais à l'ambiance musicale qui change selon les périodes abordées dans la représentation? Comment on met en lien justement le texte et la musique, et comment tout ça crée l'œuvre?
Bah, il y a déjà le travail de composition musicale. Peut-être que tu peux en toucher déjà un petit peu de mots sur comment dire, sur les influences sur lesquelles vous êtes partie, Raph et toi?
Ouais. En tout cas, ce que je savais en initiant le projet, c'est que je voulais vraiment quelque chose où la musique soit autant première que le texte. De partir vraiment sur du parler chanté, du quelque chose proche du spoken word, etc. Et où vraiment, la musique, c'est quelque chose qui avait énormément manqué, personnellement, mais pas qu'à moi, j'en suis rendu compte en allant sur le campus. Et du coup, ça, c'était hyper important que ça existe dans la forme. Et on a eu une grosse discussion avec Raph au début de partage, d'échange, d'influence musicale sur nos musiques du confinement aussi, de cette période-là, de pandémie. Et après, Raph, il avait fait quelques premières propositions aussi, juste sur le poème de Ginsberg, puisqu'on allait l'étudier avec Delphine, pour s'inspirer, pareil, du rythme. Et ensuite, lui, sur son travail, il a travaillé à partir du texte. Et en même temps, on traverse quand même, il y a une évolution, il y a une continuité. Et en même temps, on traverse des phases et des périodes très différentes. Donc il fallait que la musique puisse faire entendre ça. En fait, la musique donne vraiment un indicateur de l'endroit émotionnel où on se trouve de manière générale. Enfin, il y a toute cette période sur l'arrêt prolongé de la fac entre... à partir du deuxième confinement et jusqu'à mai où il y a le couvre-feu qui continue, etc. Enfin voilà, et là il y a vraiment à faire entendre ce côté interminable, la chose qui s'étire, quoi.
Ouais, c'est ça, parce qu'il y a une ambiance beaucoup plus pesante quand vous parlez des confinements ou du couvre-feu, et quand vous passez un peu sur le déconfinement ou le retour à la fac, il y a un petit peu une légèreté un peu plus dans la musique qu'on ressent beaucoup quand on est dans la salle.
Après, ça dépend, parce qu'il y a certains retours à la fac qui sont quand même teintés de certains thèmes. Enfin, au Raph, il a vraiment repris certains thèmes qu'il avait développés avant dans des confinements ou des choses comme ça. Donc, ouais, c'est comment est-ce que tout s'entremêle et se mélange et du coup donne une situation complexe, en fait. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas que sur des on-off, on-off, mais vraiment, quand on en arrive à la fin, c'est ce mélange complexe d'émotions et de choses qui ont été traversées et que Raph a réutilisé, du coup, dans la musique.
Et vous le disiez juste avant, votre présentation, elle mêle poésie, parler, rapper. Comment vous avez pensé justement cette interprétation poétique? Pourquoi vous avez voulu la faire de cette manière-là?
Ça a été déjà de trouver l'endroit peut-être qui nous convenait à toutes les deux, je pense, sur lequel on avait envie d'explorer, notamment. Ouais. Toi, Laure, tu voulais vraiment partir vers quelque chose peut-être de plus rappé, chose que moi, j'avais plutôt envie qu'on parte vers quelque chose de plus spoken word, dans l'idée de plus étirer les mots. Enfin, donc ça a été vraiment tout un travail, je pense, sur le temps de répétition, de que Laure trouve son propre style. Je pense que de trouver ça, enfin de trouver son rythme qui était en accord avec la proposition musicale de Raph, un rythme quand même qui dure qu'on doit tenir sur 1h15. Donc il y avait vraiment quelque chose forcément de l'ordre de la performance aussi là-dedans. Enfin, dans ce spectacle, on est quand même là-dedans. Je crois que l'enjeu de ce travail, ça a été vraiment de trouver ton flow, de trouver ton rythme pour maintenir l'écoute des spectateuristes. Et de faire tenir aussi, entendre du moins la densité du texte, notamment. D'où aussi peut-être l'aspect assez épuré aussi de la scénographie, à savoir quasiment rien, on est quelque chose de très brut, pour rendre aussi, pour rendre l'écoute assez simple, quoi, quelque chose de très direct, voilà, de très frontal.
Oui, c'est ça, parce que pour que les auditeurs se donnent un peu une image, en fait, c'est un peu une approche de mise en scène minimaliste, en fait. Mmh. Vous êtes sur la scène et il y a les projecteurs qui sont braqués sur vous, il y a un peu de fumée autour de vous. Et en fait, du coup, moi, j'ai trouvé que ça nous... Justement, ouais, que on pouvait plus se concentrer sur le texte et on a presque un rapport personnel avec vous sur scène, en fait. On oublie un peu le cadre autour et on se concentre vraiment sur votre voix. Et je trouve que effectivement, ça donne un peu plus de valeur au texte. Et justement, pour s'intéresser un peu sur le fond, maintenant, vous parlez beaucoup de l'isolement, de la précarité et de tous ces impacts psychologiques-là sur la classe étudiante. Pourquoi vous pensez justement que ce point a été très sous-estimé dans cette période Covid sur les impacts psychologiques
C'est pour essayer de comprendre pourquoi qu'on est, enfin, que moi j'ai eu envie de faire ce projet en fait. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment on oublie totalement une partie de la population et qui est une partie non négligeable. Qu'est-ce qui fait qu'en fait à un moment c'est ok, enfin on se dit que c'est ok de d'imposer une certaine situation à certaines personnes en fait. Donc, est-ce que j'ai la réponse ? Je ne sais pas. j'en sais rien, mais pourquoi c'est méprisé ? Je sais pas, il y a peut-être des clés dans le spectacle. Après, ce serait difficile de parler à la place d'eux ou de répondre à la place d'eux, mais
un peu complexe comme question, ouais. Mais...
Oui, c'est un point de vue complètement personnel, mais en regardant, par exemple, les dernières présidentielles, c'est sûr que la jeunesse n'a pas été un sujet majeur d'importance pour... Mais tout parti politique confondu, en fait. Et ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question de société. Qu'est-ce qui fait que dans notre société, il y a le regard qui s'est tourné plus vers une certaine tranche de la population et qui en a oublié complètement une autre, alors que c'est...
Ouais, les étudiants ont été totalement délaissés pour vous.
En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dans leur ressenti aussi.
Oui, ça, parce qu'en fait, le texte reprend toutes leurs paroles et leurs ressentis, en fait.
Oui, moi, ça a été ma sensation, mais c'est aussi ce que j'ai retrouvé dans leur ressenti. Donc après, on n'a pas fait, soyons honnêtes intellectuellement aussi, on n'a pas fait 50 000 facs, on a fait une fac, qui est bien spécifique aussi. Donc c'est juste une température à cet endroit-là. Mais en tout cas...
Et pour revenir aussi sur une partie de la représentation, moi je ne connaissais pas personnellement le poème d'Allen Ginsberg en venant vous voir vendredi dernier. Et lors d'une scène qui s'appelle Le mot que l'on ne prononce pas, si je ne me trompe pas, c'est à ce moment-là du spectacle, vous reprenez le terme de Moloch qui est présent dans le poème. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur ce que ça signifie ce mot Moloch ?
C'est une partie du poème de Ginsberg. Donc le poème de Ginsberg, il est en trois grandes parties. Et puis avec une dernière petite partie à la fin. Et effectivement, il y a cette partie-là où il parle du Moloch et qui est une partie qui laisse plus exploser la colère, en fait, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à une situation donnée. D'aller au-delà de la situation et d'essayer de comprendre de quoi elle est le symptôme, en fait. Et c'est juste que j'ai cherché un autre mot qui puisse mieux en parler. Et en fait, celui-là était tellement parfait, et dans sa signification que je vais vous expliquer, et dans sa sonorité, et dans son rythme, que j'assume la référence à Ginsberg, l'emprunt à Ginsberg. Et en fait, Moloch, c'est un dieu babylonien, une divinité babylonienne, qui est une forme archaïque de Saturne, et à qui on faisait des sacrifices d'enfants. Voilà. Et du coup, comme ça parle d'une jeunesse sacrifiée, et de chercher qu'est-ce qui est la cause de cette jeunesse sacrifiée. Voilà, c'est pour ça que j'ai gardé.
Et pour revenir un peu sur l'influence aussi du livre de Barbara Stiegler, vous dépeignez donc les atteintes qui ont été faites sur les libertés individuelles et la gestion du Covid. Pourquoi, au-delà de tout ça, est-ce que vous pensez aussi que c'est la démocratie elle-même qui a été mise en péril pendant cette période Covid ?
Ce serait intéressant qu'on réponde toutes les deux.
Oui, Delphine, Latour, si vous voulez donner votre avis.
Commence alors, je prends la suite.
Moi oui, parce que il y a quand même énormément de décisions. Barbara Stiegler le décrit très bien, il y a des décisions qui ont été prises de manière unilatérale, alors que normalement il y a des organes de décision démocratique qui existent et qui sont mis en place pour pouvoir réagir à une situation donnée. Mais du coup, c'est une décision collective. Alors que là, tout ça a été complètement gommé et mis de côté, et ça a été des décisions prises de manière unilatérale. Ensuite, en interdisant le croisement et les effets des confinements successifs ou des couvre-feux, toutes les, enfin, tout ce qui est de l'ordre de l'associatif, mais même en dehors de la fac, en fait, enfin, même dans la société en général, a été complètement éteint, en fait. Et or, ça, c'est quand même une des bases du vivre ensemble, du faire ensemble, d'échange d'idées, bien avant d'en arriver au bulletin de vote, en fait. Mais c'est là qu'elle se loge, la démocratie aussi, quoi. C'est dans le faire ensemble. Et du coup, bah oui, ça a été complètement éteint et gommé, quoi. Donc... Et puis, bah voilà, tous les espaces de... Parce que, pour parler que de la fac, il y a les cours, mais en dehors des cours, en fait, il y a tous les espaces d'interstices où c'est là que ça discute, où c'est là que ça... Enfin, voilà, ça fait ensemble. Et du coup, c'est tout ça qui a été éteint.
Est-ce que vous voulez dire quelque chose, Delphine Bateau ?
Non, mais après, ça me fait penser... Enfin, en fait, j'étais étudiante à Rennes 2, par exemple, moi, il y a quelques années. Donc, j'ai fait tout mon cursus universitaire ici. Et par exemple, lorsqu'on est venu en résidence, ça m'avait un petit peu perturbée parce que j'ai pris conscience que je ne sais pas quelle serait ma vie, mon parcours, tout simplement professionnel aussi, si jamais il y avait eu une pandémie au moment où moi-même j'étais étudiante ici. Parce que moi, je me suis vraiment construite artistiquement sur le campus, avec les associations, et c'est là où j'ai mis en scène mes premiers projets. Et clairement, j'ai plus fait dans les associations et donc dans le collectif, finalement, que dans les salles de cours, quoi. Donc si jamais je n'avais pas eu ça, je ne sais franchement pas ce que je... Enfin, j'ai pris conscience de ça, du moins, quand on était justement ici en résidence justement dans tous ces moments de parole. Donc oui, je trouve ça effrayant de ne plus avoir le droit de d'être ensemble, de faire ensemble, donc de réfléchir ensemble, donc de penser différemment, donc d'inventer de nouvelles choses. Oui, donc c'était une prise de conscience assez deep, assez, enfin voilà.
J'aurais bien aimé vous poser une petite question.
Oui.
On a tous vécu finalement un huis clos permanent presque pendant la pandémie au final. Du coup, je me demandais par rapport à la mise en scène, comment vous avez mis en scène ce huis clos permanent et ce fait d'être chacun isolé. Est-ce que il y avait qu'un seul acteur sur scène? Moi, j'ai pas vu la pièce, contrairement à Valentin.
Oui, il y a effectivement une personne, donc Laure est au plateau, avec très peu de déplacements, parce qu'il y a aussi tout ce texte à tenir rythmiquement. On est quand même, pour donner peut-être des images aux éditoristes, on est quand même sur une forme... comme on peut imaginer un concert, hein, avec le musicien sur le côté, avec toutes ses machines, et Laure qui prend en charge effectivement cette parole. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose d'assez oppressant, je pense, dans la forme en elle-même. Du moins, il y a une tension qui est tenue. Je pense que tout le travail aussi rythmique, n'y est pas pour rien là-dedans, mais on est quelque chose sur très... une forme très tenue aussi sur 7h15. Alors, ouais, je pense que... Ce sentiment d'isolement, ouais, je pense que, en tout cas, il y a pas mal de... on fait appel au sens dans le texte, dans l'interprétation de Laure, dans la musique. Donc je pense que, évidemment, qu'on soit étudiant, étudiante, ou alors, peu importe finalement l'âge, puisqu'on a... Tout le monde a vécu cette période-là. C'est très finalement personnel, j'ai l'impression, comme moment, parce qu'on a directement des images qui nous parviennent de nous-mêmes sur cette période. Donc oui, peut-être que ça me fait penser à ce que tu nous disais tout à l'heure sur la réaction.
C'était pour finir, je voulais vous poser une dernière question. C'était justement, qu'est-ce que vous aviez envie de transmettre à travers cette représentation-là? Et comme effectivement, je vous disais en off tout à l'heure, moi j'étais tout seul derrière au fond du théâtre. Et en fait, quelques secondes à la fin de la représentation, tout de suite, il y avait un groupe de trois filles qui étaient devant moi. Et tout de suite, en fait, elles se sont retournées vers leurs potes, quoi. Et elles se sont dit, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, mais comment toi tu l'as vécu ce confinement-là et tout? Et est-ce que c'était ça que vous vouliez transmettre à travers cette représentation?
Franchement oui, enfin, c'est il y a quelque chose de... Est-ce que la parole peut être réparatrice à un moment aussi? Et ce qui a été assez frappant, mais pour tout le monde en fait, université mais aussi hors université, nous on le voit dans notre secteur aussi, c'est que la reprise elle est arrivée mais tellement vite, et puis tout le monde dans une urgence de faire en fait, de laisser de côté, de mettre derrière, enfin voilà, que personne n'a pris le temps de parler en fait, alors que ce qui s'était passé a été en fait énorme pour énormément de gens, enfin, et il y a eu des conséquences, même dans le milieu artistique, hein, très lourdes. Et voilà, donc prendre le temps d'en parler et d'essayer d'échanger, de reprendre le diapason de chacun, chacune, ouais, ça c'est... Si ça arrive, c'est cool.
Et je crois que ça a été les premières choses qu'on a faites aussi, nous.
Oui.
Ça a été de se poser cette question de comment est-ce qu'on l'avait vécu. Et en fait, on s'est aperçu qu'on ne s'était jamais véritablement posé cette question-là. C'était la première fois qu'on verbalisait ça aussi entre nous. Donc effectivement, ce retour des trois personnes qui étaient devant toi, c'est...
Bah, tant mieux, c'est le meilleur
hyper,
retour.
Ouais. Hyper touchant.
Bah, merci beaucoup Laure Catrin et Delphine Batour d'être venues avec nous dans l'Inattendu pour parler de votre pièce Hall 21-22. Est-ce qu'il y a des représentations qui sont prévues pour la suite ?
Oui, et ben, on va jouer à Saint-Brieuc le 6 décembre. À 18h30 et ce sera à la MJC du Plateau, donc juste en face du campus. Les étudiants et étudiantes évidemment de Rennes 2 sont bienvenus. C'est pas la gratuité encore, mais c'est 3 euros pour les étudiants et étudiantes. Et voilà, on sera avec plaisir de
Et
de
pour nos auditeurs, on peut retrouver toutes vos actualités sur, peut-être sur le site
ouais, de la compagnie.
Ok.
Ladude.fr.
Voilà. Et là, c'est noté. Merci beaucoup d'être venu. Aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci à vous.